L'Église a besoin de reprendre possession de ce que Dieu lui a donné dans cet objectif de la conquête. Et les actes des apôtres ont vécu des temps forts. Et j'aimerais attirer l'attention sur cette chose, sur le jour de la Pentecôte. Et on a tendance à dissocier la Pentecôte, le fait que le Seigneur est venu visiter son Église, est venu remplir son Église du Saint-Esprit, et le glorieux réveil qui s'est passé en même temps. Et c'est parce que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église que l'Église a grandi de 3000 d'un coup. Et il y a un lien étroit entre la Pentecôte, les puissances, les dons spirituels, et ce que l'Église est amenée à faire, à conquérir. Et si l'Église a conquis Jérusalem à l'époque, c'est parce qu'il y avait une combinaison étroite de ce que le Saint-Esprit était en train de faire dans l'Église, de comment le Saint-Esprit était en train de se servir des apôtres, au travers des dons spirituels et de la manifestation des dons spirituels et les conversions. Il y a un lien étroit. Et ce soir, vraiment, je voudrais vous encourager à réaliser que nous sommes rentrés dans un temps particulier de l'histoire. Je veux vraiment croire que le Seigneur nous appelle à nous réveiller dans le sens où il revient bientôt et l'Église doit aller de l'avant, prendre le terrain de la conquête dans l'évangélisation. Mais permettez-moi de vous amener à réaliser une chose, pas forcément, et c'est sûr que c'est essentiel, la prédication de la parole, mais aussi, et c'est ce qui est particulier le jour de la Pentecôte, aussi par l'exercice des dons spirituels. Lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, va être revêtu du Saint-Esprit, parler en langue, ils vont sortir dans la rue. Et au milieu de toutes ces personnes, au milieu de tous ces peuples qui étaient réunis différentes langues, alors c'était le peuple d'Israël, mais ils venaient de différentes contrées, de différents pays, et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là, et rassemblés, parlant des langues différentes. Et comme les apôtres étaient revêtus de puissance et d'autorité, ils se sont mis à parler diverses langues. Et vous savez, ce qui les a étonnés, ce qui les a surpris, c'est qu'ils comprenaient. Avez-vous vu comment les dons spirituels manifestés au sein de l'Église apportaient du fruit le jour de la Pentecôte? Ils entendaient les louanges de l'Éternel dans leur propre langue. C'est ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres. Les dons spirituels sont là pour édifier l'Église, mais l'édifier dans un sens aussi particulier, celle de la conquête spirituelle, celle de l'évangélisation aussi. Et je voudrais exprès ce soir ouvrir ce champ, parce que c'est vrai, nous utilisons bien souvent les dons spirituels dans l'Église au travers de la prophétie, et je suis d'accord avec vous, il édifie le corps de Christ. Mais au travers de cette étude, on va se constater que finalement les dons spirituels ne servent pas qu'à édifier le corps de Christ, mais ils servent aussi à l'édifier, à l'élever, à le grandir, à l'amener plus loin. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120, ils passent à 3000 parce que l'Esprit est venu sur eux. Et les dons se sont manifestés, des dons de miracles, de guérison se sont manifestés au sein du peuple, à tel point qu'ils ont été stupéfaits. Moi, je me dis, mes frères et sœurs, par rapport à la génération incrédule dans laquelle nous vivons, il va falloir manifester des dons de puissance. Il va falloir manifester des dons de révélation. Il va falloir manifester des dons des langues pour que la gloire de son nom soit manifestée dans l'Église. Amen. Paul est un homme vraiment remarquable à bien des égards et il nous a laissé un mode d'emploi, on connaît ces textes, 1 Corinthiens 12, 13, 14, qui seront vraiment la trame de cette série. Et lorsque je réfléchissais à comment partager cette thématique sur les dons spirituels, je me suis simplement dit, faisons une exposition de texte. Prenons le texte tel qu'il est, tel que Paul nous a laissé, le mode d'emploi tel qu'il nous l'a laissé, et regardons un petit peu ce que Dieu veut nous apprendre au travers de ces dons spirituels. Et lorsqu'on prend le texte, Paul commence 1 Corinthiens chapitre 12, et il commence tout simplement, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, et frères et sœurs, je me permets de rajouter mes sœurs, parce que nous sommes tous concernés, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes. selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et notez bien ça, il opère au milieu de nous tous. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, je fais une parenthèse, nous sommes appelés à exercer automatiquement les dons spirituels. Là, vous devez dire « Amen ». Tu n'es pas simplement appelé à parler en langue, et certes, ça t'édifie toi-même, mais moi, j'aime à imaginer le baptême du Saint-Esprit comme un package, une box. Il y a des box, je ne sais pas, peut-être vous allez offrir ça à Noël, à quelqu'un, voilà ta box de Noël. Avec... Pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est une box juste miraculeuse avec 9 cadeaux à l'intérieur que Dieu a laissé pour son Église. Et nous sommes appelés à les exercer. On poursuit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et notez bien cela, ce n'est pas que notre édification personnelle, c'est l'édification du corps dans son ensemble. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même Esprit, et à un autre le don de guérison, par le même Esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. On va commencer par là ce soir pour comprendre là où Dieu veut nous amener. Et peut-être le premier point que je voudrais souligner, c'est ce que dit Paul au tout départ, au premier verset, pour que, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a une chose particulière, c'est que, et c'est ce que Paul veut dire au travers de ce quelques versets, ce verset tout simple, il nous indique qu'on a besoin d'être enseigné. Et vous savez, j'ai le sentiment par moments que, parce que l'on vit, et j'ai eu rencontré ça, des personnes qui vivaient les choses d'en haut, qui vivaient le baptême du Saint-Esprit, il semblait me dire que « Ah, mais je suis sous la révélation, pasteur, je n'ai pas besoin d'être conseillé sur la vie de l'Esprit, je n'ai pas besoin d'être conseillé sur les dons spirituels et comment les manifester. » Et or, quand on lit ce texte, on s'aperçoit que Paul parle à des gens qui vivent les choses d'en haut, vivent le Saint-Esprit. Pour autant, il leur dit « Mais vous savez quoi, vous pouvez vivre les choses d'en haut tout en étant ignorant. » Et je me rends compte que finalement, et parce que l'Église doit fonctionner en ordre, et c'est ce que nous verrons dans les prochains textes, dans 1 Corinthiens 14, il est parlé du fait que tout doit se passer dans l'ordre. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes appelés à vivre les choses d'en haut, on doit aussi vivre n'importe quoi dans l'Église. Il y a un ordre. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, et pour que ça soit vivable, pour que la parole et le Saint-Esprit puissent passer au milieu de nous. Vous savez, il y a une chose très intéressante dans ce qui est dans la vie de l'esprit. Je partageais ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a la forme et le fond. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, mais bien souvent, ce qui est important entre la forme et le fond, c'est la parole. C'est le message que Dieu veut communiquer à son Église. Et puis, il y a la forme. Et bien souvent, on a besoin d'être enseigné sur la forme. On a besoin d'être enseigné sur le fait que nous sommes des canaux. Et ce qui doit être communiqué, ce n'est pas tant la forme du message, comment le message est communiqué, mais c'est le fond, le message en lui-même. Et au mieux il est communiqué, au mieux il est donné à l'Église. Au mieux l'Église pourra l'appréhender, le recevoir et le mettre en pratique. On ne doit pas faire n'importe quoi, sous prétexte qu'on vit les choses d'en haut, sous prétexte qu'on vit le baptême du Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit nous visite et se sert de nous. On a besoin de canaliser ça pour que l'Église puisse recevoir le message et que ça devienne un instrument percutant. Je pense à un témoignage, je vais juste vous donner une pensée par rapport à l'idée de la forme et du fond. Je pense à une personne, je me rappelle de cette personne, elle venait à l'église, elle venait, et puis lorsqu'elle commençait à prophétiser, on avait l'impression qu'elle rentrait en transe. Et alors, vous savez quoi, quand vous étiez à côté, vous étiez en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faudrait peut-être prier pour elle, elle est malade. Elle va défaillir, qu'est-ce qui se passe? Et je peux vous assurer que le sentiment de mal à l'aise prenait place dans l'église. La forme. Et puis alors quand le message était prononcé, vous savez quoi? Les gens étaient plus attentifs à la forme qu'au fond. Et au final, la perception qu'on avait de ce que Dieu était en train de donner, parce que je suis convaincu que Dieu était en train de parler, servir cette femme, bah finalement, on retenait plus la forme que le fond. Et nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à gérer tout ce qui est émotionnel pour communiquer au mieux le message que Dieu veut donner à son Église. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Et ça n'a pas besoin non plus d'être théâtral. Parce que ce qui est important, c'est le fond. Nous avons besoin d'être enseignés. En même temps, et c'est ce qui est important aussi dans l'idée de l'enseignement, c'est qu'on doit être aussi en même temps enseignable. Dans la même série, et nous le verrons peut-être plus tard, mais il est dit que nous devons veiller à vérifier les dons. Ah. Moi, il y a eu des fois, je suis allé voir des frères et des sœurs, pas ici, hein. Forcément ici, tout va bien. Mais j'étais obligé d'aller voir des frères et des sœurs, leur dire, mais écoutez, mon frère, ma sœur, le message qui est communiqué, c'est ça n'exhorte pas, ça n'édifie pas, ça n'encourage pas. Et c'est ce que doivent faire les dons. Et puis, par rapport à la doctrine, c'est pas tout à fait ça, vraiment. Et la personne, offusquée, me dit, mais c'est le Saint-Esprit qui s'est servi de moi. Et en même temps, il est dit fortement que nous prophétisons tous imparfaitement. Ah, mince. Et du coup, on doit vérifier et on doit ne pas prendre pour argent comptant toutes les prophéties. Certes, nous devons prendre ce qui est bon à prendre et laisser ce qui n'est pas bon. Cela dit, nous devons veiller à progresser. Et vous savez, c'est ce qui est étonnant dans l'histoire et dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y avait une école de prophètes. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y avait une école de prophètes? Je ne sais pas vous. Ça tombe de nulle part, il y avait une école de prophètes du temps du prophète Élisée. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des dons que nous sommes appelés aussi à améliorer, à améliorer notre sensibilité, notre perception des choses d'en haut, améliorer notre écoute, chercher à progresser dans le fait de délivrer le message divin. Nécessité d'être enseigné, et je dirais nécessité d'être enseignable nous-mêmes pour ne pas faire n'importe quoi. Pas de contradiction scripturale. Je dis ça parce qu'à un moment donné, il est dit tout simplement, l'Esprit ne peut pas, forcément, et c'est ce que Paul dit, mais l'Esprit ne dira jamais Jésus-Christ est anathème, ce n'est pas possible. Et finalement, s'il y a une chose qui est essentielle dans l'exercice des dons spirituels, c'est que nous restions scripturales. Les prophéties, les messages, les dons de sagesse, tout ce que Dieu a donné à son Église ne peut pas rentrer en contradiction avec les Écritures. Ça paraît évident, mais des fois, excusez-moi, mais on est surpris d'entendre des paroles qui sont juste, ben, c'est pas biblique. Et en même temps, elles ne doivent pas être bibliques au sens strict. Un don spirituel, ce n'est pas non plus la lecture de la parole. Et oui. Et par moments, ça c'est eu fait, on prend la Bible et puis on se lève en plein milieu de l'auditoire et puis on lit les Écritures. Les dons spirituels, ce n'est pas ça. C'est une parole qui vient corroborer ce que disent les Écritures, mais qui offre un regard, un enseignement particulier sur ce que nous devons en percevoir ou en comprendre. Pas de contradiction scripturale, pas en opposition. Et puis, ce qu'il y a de remarquable, c'est la diversité des dons. Et ce soir, je vais me permettre de m'y arrêter un petit peu. Pour la simple et bonne raison, c'est ce que Paul dit. Et si vous lisez la fin de 1 Corinthiens chapitre 12, toute la seconde partie, c'est là que Paul parle du corps, plusieurs membres, des oreilles. Il a besoin d'une diversité d'exercices des dons. Et c'est dans ce contexte-là que Paul parle de cette diversité, qu'il y a un corps, qu'il y a des jambes, qu'il y a des bras, qu'il y a des oreilles. C'est dans ce contexte-là. Et pourquoi je me suis dit, mais pourquoi Paul, tu parles de la diversité dans ce texte-là, dans ce contexte-là des dons spirituels? Et la réponse, elle est toute simple, c'est que l'Église a besoin de réaliser qu'elle a besoin de cette diversité d'expression. Amen. Elle a besoin, et dans le fonctionnement de l'Église, c'est peut-être à notre tort ou à notre raison, mais on a l'impression que quand on entend pour les premières fois parler des dons spirituels, il n'y en a qu'un, le don de prophétie. Or, lorsqu'on lit les Écritures et lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte qu'il y en a 9. 9 dons spirituels qui ont tous un rôle essentiel dans l'Église. Et il n'y en a pas un plus petit ou un plus grand. Il dit simplement que dans le fonctionnement de l'Église, ils ont tous une place nécessaire au sein du corps de Christ et qu'ils doivent forcément se manifester. Alors pour nous, ce soir, la première étape dans la compréhension des dons spirituels, ben finalement, c'est de les examiner ensemble. Et je vais faire ça, je vais être obligé d'être très rapide parce qu'il y en a 9. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va raconter après? L'important pour moi ce soir, c'est de nous mettre le pied à l'étrier pour que dans les 2 semaines à venir, non seulement nous comprenions de quoi nous parlons, mais surtout que nous puissions aspirer à ces dons et les exercer. Alors, on va commencer par les dons. On les compose, on les dissocie ou on les structure en 3 parties. Et la première partie, c'est celle qu'on trouve, ce sont les dons de langue. Et nous en pratiquons quelques-uns déjà au sein de l'Église. Par moments, un don spirituel se manifeste, un parler en langue se manifeste au milieu de nous. Et c'est le premier des dons, diversité des langues. Ce don, ce n'est pas la pratique que nous faisons personnellement du don des langues. Je m'entends lorsque nous prions dans nos moments personnels, nous parlons en langue. Paul dit « je parle en langue plus que vous tous » et en même temps, il a raison puisqu'il s'édifie lui-même. Mais en ce qui concerne ce don, il ne s'agit pas de ce don-là. C'est un don autre, c'est un don qui a pour but d'édifier le corps de Christ. C'est une manifestation au sein du peuple de Dieu quand il est réuni. Dieu peut parler au milieu de nous au travers de langues diverses. Et bien souvent, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des parlers en langue au milieu de nous et ce don est étroitement lié à celui de l'interprétation. Il nous est dit même plus tard dans le texte que celui qui a le don des langues cherche le don d'interprétation. Parce que ce don n'a une utilité, le don de diversité des langues, n'a d'utilité dans l'Église que quand il peut être aussi traduit ou interprété, c'est le mot. Et finalement, ce don-là, et c'est ce qui est glorieux, lorsqu'on lit la Pentecôte, lorsque les disciples vont sortir, exercer ce don, il nous est dit que les gens comprenaient ce qu'ils racontaient, comprenaient, et ce don-là est juste magnifique parce que ce sont par moments des langues des anges, ou ce sont des langues connues, ce sont par moments des langues mortes. Peu importe, c'est une langue que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Et sachez-le, on met un pied dans du surnaturel. Lorsqu'on parle des dons spirituels, nous ne parlons pas de quelque chose que nous avons appris ou lorsque nous nous exprimons d'une façon différente dans une langue que nous avons appris. Une fois, j'étais dans une église et c'était amusant parce qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient là. Et à un moment donné, je vous parle de ça, il y a des années de ça, il y a un frère qui dans l'assistance, commence à prier en anglais. Et il y a des frères et sœurs qui ont cru que c'était un don spirituel. Seulement, il y a eu une interprétation. Et ce n'était pas tout à fait ça. On est dans du surnaturel. On est dans quelque chose qui nous dépasse de loin. Et la diversité des langues, elle se manifeste dans le corps de Christ. Et on doit être vigilant au fait que la personne n'est pas censée parler cette langue du tout pour que ce soit un don spirituel avéré. Et l'interprétation, et je vais en rajouter une chose parce que ces deux dons sont étroitement liés, l'interprétation n'est pas non plus une traduction. On peut entendre quelqu'un qui parle en langue et être capable de comprendre le message, parce que c'est peut-être une langue auquel nous sommes familiers, que nous connaissons. La personne ne parle pas cette langue d'habitude. Mais nous la comprenons, et nous sommes en capacité de la traduire. Or, le don d'interprétation est un don surnaturel, qui nous amène à interpréter ce qui a été dit, non pas parce que nous le comprenons, mais parce que l'Esprit de Dieu se sert de nous. Je précise, parce qu'on pourrait nous qualifier d'exercer un don spirituel lorsque nous traduisons, et nous sommes en capacité de traduire une langue, mais ce n'est pas le cas. Le véritable don spirituel, c'est lorsque le Saint-Esprit se sert de nous, et à la suite d'un parler en langue, nous sommes capables d'interpréter le message sous l'onction et sous la puissance du Saint-Esprit. La prophétie, c'est un don encore particulier et bien souvent, dans notre conception, ou parce qu'il y a des abus de langage, lorsqu'on parle de prophétie, on a le sentiment que c'est ce qui va arriver ou c'est une projection vers l'avenir. La prophétie, ce n'est pas tout à fait ça. C'est la définition qu'on pourrait en donner, ce sont des paroles inspirées. Alors la prophétie, elle peut, pourquoi pas, être en lien avec ce qui va se passer dans le futur, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'objectif premier de la prophétie. La prophétie, c'est quand Dieu parle, et parle à son Église, parle de certaines choses. Il peut lui parler de son avenir, et c'est un don qui, à ce moment-là, vient se cumuler avec un autre don. Par moments, lorsque nous prophétisons, nous pouvons amener une parole de sagesse en plein milieu. C'est vous dire aussi une réalité des dons spirituels, une chose que nous devons comprendre. Il ne faut surtout pas s'amuser trop à cloisonner les dons. Parce qu'en fin de compte, bien souvent, nous vivons, lorsque nous exprimons les dons spirituels, nous cumulons des fois plusieurs dons en même temps. Et je trouve ça intéressant de le souligner parce que par moment, lorsque nous exerçons les dons, par moment, on peut exercer deux dons en même temps. Mais je reviens à la prophétie. Dieu parle. Et Dieu se sert de la prophétie. Et en même temps, la prophétie, je vais mettre encore l'accent sur quelque chose de ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas non plus le fruit d'une méditation. La prédication ou la prophétie, pardonnez-moi, c'est une parole spontanée, donnée à un moment donné précis. C'est quelque chose que Dieu met sur notre cœur à un moment donné. Alors, peut-être à un moment donné, je vais aller un peu plus loin dans la réflexion. Lorsque nous avons des temps de prière, peut-être nous pouvons recevoir une parole, quelque chose de fort. Mes frères et sœurs, si vous recevez des paroles, ne revenez pas dessus. Écrivez-la, mais ne revenez pas dessus. Moi, j'ai eu des frères et sœurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, voilà, j'ai reçu une prophétie de la part de Dieu et puis il y avait 4 pages d'écrites. Je me suis dit, mais waouh, le Seigneur a été loquace. Le danger souvent avec la prophétie, mes frères et sœurs, c'est que, et j'ai lu un livre très intéressant qui parlait qu'on recevait, dans l'exercice de la prophétie, on reçoit une parole et puis nous la prononçons. Et ce que j'aime bien c'est que dans ce texte, c'est qu'il dit « il faut savoir s'arrêter ». Je vais être très pragmatique ce soir, excusez-moi, mais il faut savoir s'arrêter. Et bien souvent, lorsque nous recevons des prophéties, de temps en temps, j'exerce, j'ai souvent qu'une pensée. Et je la communique. Et le danger, vous savez quoi, c'est de rentrer dans l'interprétation de la prophétie. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai partagé, une personne, ma femme, m'a partagé cette expérience où, à un moment donné, dans sa vie, elle a reçu une prophétie. Et vous savez quoi, le début c'était juste formidable, c'était juste glorieux. Et puis à la fin, la personne est allée dans l'interprétation. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la première partie s'est accomplie, mais la seconde jamais. Je crois qu'on doit être vigilant en tant que prophète, en tant que personne, attention prophète, en tant que personne exerçant les dons spirituels, vigilant à savoir s'arrêter par rapport à ce que Dieu met sur notre cœur. Prophétie longue, vous savez quoi, c'est très risqué. Parce que ça ouvre une porte à notre propre perception, à notre propre compréhension de la prophétie. Et je le redirai souvent, ce qui est important, c'est délivrer le message que Dieu nous a donné et pas forcément essayer de l'étoffer et le grossir. Vous savez, des fois, une prophétie, ça peut tenir à 4 mots, 5 mots, 6 mots. Une parole de la part de Dieu, une parole d'encouragement, une parole d'édification. Ça ne tient des fois pas à grand-chose. Et c'est de la façon la plus pure qu'elle trouvera le plus de répondants, le plus d'actions. Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vécu une prophétie quelqu'un m'a prophétisé, a prophétisé sur ma vie. Et là encore, c'est juste étonnant. Je partage ça parce que la personne a partagé le message tel que ça venait. Et de lui-même, il m'a dit, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Et c'est étonnant dans quel chemin Dieu nous amène dans l'exercice des dons spirituels. Peut-être quand on les délivre, on aimerait que c'est une logique ou c'est quelque chose de construit. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on est un canal, bien souvent, Dieu nous amène à prophétiser sur des choses. Et je me souviens de ce frère, c'est un pasteur qui a prophétisé. Il n'a pas prophétisé ouvertement sur moi, il a prophétisé dans l'assemblée avec des pasteurs. Et très honnêtement, ça n'avait ni queue ni tête, sauf pour moi. Sauf pour moi. Et lui-même, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, « Waouh, mais t'as reçu vraiment une parole pour moi. » Et il m'a regardé et il m'a dit, « Tant mieux. » Mais ce que j'ai aimé dans la communication du don qu'il avait reçu, c'est qu'il n'a pas cherché à torturer la chose, à la faire rentrer dans notre propre compréhension, dans notre propre perception. S'il l'avait fait, ça n'aurait pas eu le même impact sur ma vie. Et au plus pur le message est transmis, au mieux nous pourrons le percevoir. Et je vous encourage à être simple dans les dons spirituels. On ne vous demande pas et on ne demande pas à l'Église, dans l'exercice de la prophétie, d'amener des méditations ou des prédications. Mais au plus pur le message est, au plus nos cœurs seront réceptifs et au plus le message communiquera ou donnera, aura du sens à celui qui le recevra. La deuxième partie, la deuxième tranche de dons, donc ce sont les dons des langues. Comprenez, je ne peux pas m'étaler dessus, et c'est volontairement que je le fais. Nous avons les dons de révélation. Donc nous avons trois dons, dons de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et vraiment, ce sont des dons, autant nous comprenons ces dons linguistiques ou dans l'Église, nous voyons l'exercice des dons spirituels se manifester, autant ces dons-là, je suis convaincu d'une chose, c'est que vous les vivez sans le savoir. Et par moments, il y a des frères et sœurs qui me disent « Oh, pasteur, je ne vis pas les dons spirituels. » J'ai bien envie de leur dire « Mais qu'est-ce que vous en savez ?» Parce qu'à partir du moment où on est baptisé du Saint-Esprit, certes, nous sommes appelés à aspirer à vivre ces dons, mais par moments, nous les exprimons sans le savoir. Et particulièrement dans ces dons-là, qui ne sont pas forcément bien connus ou bien appréhendés de la part de l'Église. Dons de sagesse. Don de sagesse, c'est parole de sagesse, c'est une intelligence, ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas une capacité que Dieu a donnée à certaines personnes de bien gérer les problèmes. C'est une intelligence surnaturelle, c'est bien souvent une parole qui déstabilise. Pour exemple, je pourrais donner l'exemple de cette parole de Jésus lorsqu'il y a cette femme adultère et Jésus va dire à ces gens qui sont là pour lapider cette femme, Jésus va dire à ces personnes, mais qui est le premier, qui est sans péché, jette la première pierre. Vous savez quoi, c'est le genre de parole un petit peu surnaturelle qui... Ah ! C'est comme quand des hommes vont venir, ils cherchent à piéger Jésus au sujet de l'argent et ils viennent voir, mais est-ce qu'on doit payer les impôts à César ? Jésus vient leur dire, mais qu'est-ce que vous voyez sur cette pièce ? Qui vous voyez ? César. Ok, ben, ça appartient à César, alors rendez à César ce qui appartient à César. Vous savez, c'est le genre de paroles surnaturelles qui déstabilisent et qui débloquent des situations juste d'une façon miraculeuse. Jésus était un... Il exerçait ce don juste de façon miraculeuse et je trouve ça étonnant. Et je suis convaincu, mes frères et sœurs, que nous serons appelés à exercer ce don de sagesse. Nous l'avons peut-être exercé. Peut-être vous êtes arrivé de dire une chose, vous pouvez vous dire, ah, c'est pas de moi. Et Dieu s'est servi de vous pour débloquer des situations au travers de paroles de sagesse, de paroles miraculeuses, des paroles clés qui débloquent des situations comme Jésus l'a fait avec cette femme adultère, ou comme Jésus l'a fait par rapport à ce piège que les gens lui tendaient par rapport à l'argent. Et très honnêtement, par moments, lorsque nous sommes dans des situations compliquées et difficiles, Seigneur, donne-nous des paroles de sagesse. Je crois qu'on vit de plus en plus de situations compliquées dans l'Église, au travers des gens que nous rencontrons, des difficultés qu'ils rencontrent. Et bien souvent, les gens, parce que nous sommes chrétiens, viennent nous voir et nous dire, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous feriez? Et je me suis souvent mis, j'étais souvent dans des situations juste pas possibles. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je dois dire à cette personne? Ben, très honnêtement, la prière, c'est aspirer au don les meilleurs. Et là, pour le coup, le don de sagesse, Seigneur, vas-y, vite. Vite. Et puis, Seigneur, fais grâce et nous permet d'être ces canaux. Et vous allez être confrontés, mes frères et sœurs, à des situations juste inextricables, des situations où parler devient inutile. Et là, on est, il y a un mot en anglais, speechless, sans mots. Seigneur, que ce don se manifeste, que des situations soient débloquées, parce que le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Et vous prononcerez des paroles qui vont déverrouiller des situations. Et la grâce de Dieu va se manifester. Quand je vous disais, et je vous parlais que les dons spirituels sont aussi une arme pour la conquête. Parlons des paroles de connaissance. Juste incroyable. Paroles de connaissance. On en trouve plein dans les Écritures. Jésus, lorsqu'il parle à Nathanaël. Je suis émerveillé de cette parole de Jésus quand il dit à cet homme, ben voici un homme en qui il n'y a point de fraude, et qui dit à cet homme, Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. Bon, je pense que Nathanaël savait très bien ce qu'il faisait, et je pense aussi que Jésus savait très bien ce qu'il faisait sous le figuier. Et c'est une parole de connaissance juste étonnante. On trouve aussi cette parole de connaissance de Jésus à la Samaritaine, lorsqu'elle vient et qu'ils échangent et qu'ils partagent, Jésus lui dit, va chercher ton mari, et puis là, et Jésus lui raconte toute sa vie, lui explique tout ça. La parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle des situations. Et ce n'est pas non plus le fruit d'une perception psychologique, ou parce qu'on a discerné dans la personne, on a vu des failles qui nous amènent à penser que par moments, lorsqu'on parle aux gens, et ça arrive lorsqu'on est dans le ministère, on parle aux gens, Dieu nous fait comme un flash par rapport à certaines situations, il y a ça dans cette vie. Parole de connaissance. Et dans bien des situations, Dieu veut se servir de nous pour révéler des situations qui sont cachées. Je prends l'exemple de Pierre qui, à un moment donné, se retrouve devant Ananias et Saphira. Et là, l'Esprit de Dieu va parler au travers de Pierre et révèle une situation particulière, une situation où Ananias et Saphira vont mentir. Et des fois, Dieu va vous utiliser, mes frères et sœurs, pour révéler des situations dans des vies, dans ce qui se passe chez les gens, dans des familles. J'avais une amie qui avait un don, vraiment une parole de connaissance par rapport à des situations bien spéciales. Lorsqu'elle parlait avec une jeune femme, elle exerce ce don vraiment particulier. Elle est capable de voir où Dieu lui communique une chose particulière si cette personne a été abusée sexuellement. Et c'est d'une force parce qu'elle en rencontre à tous les niveaux, dans son travail, dans des situations. Et quand elle reçoit cette parole, elle m'explique que Dieu a quelque chose à communiquer à cette personne. Et elle parle, elle échange et elle prie pour trouver le moment favorable pour en parler. Parce que dans une conversation, vous imaginez dire à la personne, ben voilà, le Seigneur m'a montré que... Et là encore, je dis ça exprès parce que l'exercice des dons spirituels, ce n'est pas simplement le fait de délivrer un message, mais c'est aussi trouver le moment opportun de le faire. Ça sera la deuxième partie, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Dans ce qu'elle vit et dans ce que le Seigneur veut nous amener à voir au travers des vies et des gens, et en particulier dans les situations, la parole de connaissance, c'est une arme absolue pour interpeller les gens. Et quand cette femme, cette Samaritaine, va recevoir ce que Jésus va lui dire, elle va lui dire, ah, je vois que tu es prophète, tu as révélé ma vie, mais ça va entraîner tout un bouleversement dans sa vie. Elle va devenir la meilleure évangéliste. Elle qui est d'une situation chaotique dans sa vie personnelle, elle va évangéliser tout son village et tout le village va venir à Christ. Par moments, ce sont des dons que nous, auxquels nous devons aspirer, les paroles de connaissance, paroles de sagesse. Trop souvent, j'entends des frères et sœurs dire « Ah, je veux aspirer aux dons de guérison. Je veux aspirer à la prophétie. » Très bien. Mais c'est en ça qu'on a besoin aussi d'être enseigné pour comprendre que Dieu aussi a donné des clés différentes pour manifester sa puissance. Et on doit aspirer à ses dons. Discernement des esprits. Ah ouf. Acte 16. C'est Paul qui va se retrouver en face d'une femme exerçant une parole, entre guillemets, bizarre, mais qui pourrait, toute apparence, en tout cas en termes d'apparence, être une parole de l'Éternel. Voici les envoyés du Dieu très haut, écoutez-les. Et c'est un cirque qui va durer pendant plusieurs jours, au point qu'à un moment donné, Paul va en avoir ras-le-bol et il va la faire taire. Parce que cette femme était animée d'un esprit impur, un esprit de divination qui n'était pas de Dieu. Je vais mettre un point là-dessus particulier parce que pour expérimenter et avoir expérimenté certaines choses, le diable va essayer de falsifier ce que le chrétien vit dans la vie de l'esprit. Alors ça paraît bizarre là, dit comme ça, mais malheureusement, dans le côté obscur, les gens parlent en langue, prophétisent aussi, exercent des miracles. Et de toute apparence, on pourrait dire, mais Seigneur, oh, incroyable, oh, quel don de puissance. Et vous savez quoi? Dans les derniers temps, l'Antichrist va jouer de ça pour convaincre. Il y a des années de ça, lorsque il n'y a pas si longtemps que ça, j'en discutais avec mon père. Dans l'église où mon père exerçait son ministère, il y a un homme qui rentre dans l'église et puis en plein milieu des chants, des louanges, il se met à parler en langue, mais il parlait en langue plus fort que tout le monde. Alors de prime abord, ben, le frère, il est zélé, magnifique, il parle en langue, c'est formidable. Et puis, au bout d'un moment, lorsque... ça dure et ça continue et que finalement ça couvre tout le monde. Mon père a fait une chose, il est descendu de l'estrade, il est allé voir cette personne, il lui a dit « Écoutez, je voudrais que vous vous arrêtiez. » Donc il s'est arrêté. Puis les réunions suivantes, il est revenu à la charge. Mon père est descendu, il est allé le voir, lui dit « S'il vous plaît, je vous demande de vous taire. » Et ce qui est particulier, c'est que l'église a vu le manège, a vu ce qui se passait, jusqu'au moment où les frères anciens sont allés voir mon père et leur ont dit « Écoutez, pasteur, on ne comprend pas trop, ce frère exerce entre guillemets un don spirituel, pourquoi vous voulez l'arrêter, pourquoi vous voulez l'amener à se taire ?» Et mon père leur a dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce don, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette manière de communiquer, il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Et les frères lui ont dit « Écoutez, ils n'étaient pas forcément convaincus de ça. » Jusqu'au jour où cet homme vient à une réunion d'évangélisation, il y a de la louange, il y a des chants, et alors qu'il vient dans l'église, il passe par la porte, il ne peut pas aller plus loin qu'un mètre après la porte d'entrée. Et d'un coup, c'est ce qui s'est passé, il est projeté en dehors, et vous savez, c'était des portes à battants comme ça. Et il est projeté violemment en dehors de l'église par... je ne sais quoi, je pourrais dire quoi, je ne sais pas, est-ce que c'est l'esprit qui est en lui qui s'est manifesté? Et les portes se sont mises à battre sous la pression, vous savez, ça. Donc il est projeté à l'extérieur, les portes s'ouvrent et claquent, et lui finit derrière le mur, collé au mur, il ne peut plus bouger. Et là, les gens commencent, alors ça fait un boucan pas possible, les gens se sont arrêtés, l'église se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ils voient cet homme projeté en dehors, et ils se demandent ce qui se passe. Et puis finalement, les musiciens qui ont vu ce qui se passait, l'église qui ne comprend pas, entend un bruit, se retourne. Et là, mon père dit, toi là, viens, on va discuter. Et il commence à prier pour lui. Puis il s'avère qu'en effet, l'esprit qui l'animait n'était pas un esprit venant du Seigneur. L'église doit être vigilante. l'Église aussi doit exercer le discernement des esprits. Discerner ce qui... On doit être sensible à ce que le Saint-Esprit nous communique et pas forcément nous laisser berner parce que l'ennemi va mettre devant nous. Il est le roi des menteurs. Et s'il y a bien une chose que le diable va faire et veut faire au milieu du peuple, c'est copier. Et bien souvent, pour avoir eu des témoignages, il se passe des fois des choses dans le monde démoniaque qui pourraient s'apparenter à ce que nous vivons au sein de l'Église, à quelque chose près. C'est que la vie de l'Esprit nous ramène à la vie, tandis que lorsque le diable se manifeste dans une vie, il l'amène à la mort. Et quand je dis quelque chose près, c'est un euphémisme. Discernement des esprits. On doit réaliser vraiment que ces dons-là vont devenir des clés pour demain par rapport à ce que l'Église doit amener à prendre conscience, aspirer aux dons les meilleurs, c'est aussi aspirer à ces dons de révélation. Je vais terminer par les derniers. J'ai peu de temps, c'est juste chaotique. Don de puissance ou de capacité. Le don de foi. Don de foi, il y a plusieurs interprétations par rapport à ce don, mais par moment, c'est un don qui se manifeste dans des circonstances particulières où ce n'est pas qu'une question de foi, c'est une foi particulière pour un événement particulier. Je vais vous donner l'exemple d'Élie qui, lorsqu'il parle à Akab, à un moment donné, il prononce une parole, la pluie va s'arrêter sur la parole, sur ma parole. Boum, balance ça, c'est une parole de foi. J'ai exercé un jour une parole de foi, et vous savez, ce qui est terrible dans la parole de foi, c'est que quand on la prononce, on est convaincu de ce qu'on dit. Et puis alors, une fois qu'on l'a prononcée, on se dit, ouais, j'étais convaincu, mais alors avec le recul, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis allé dire ? J'ai exercé ça avec une jeune femme dans l'église, d'une église où j'appartenais. Elle passait par des temps vraiment compliqués, difficiles. Et elle vivait, c'était une situation très compliquée. Et dans son cœur, elle voyait sa vie finie. Elle disait, mais jamais je me remarierai, jamais je... Et alors qu'on discute et qu'on est en train d'échanger, Saint-Esprit me dit, dis-lui qu'avant ton départ de l'église où tu es, elle va se marier. Waouh, c'est quand même risqué, hein. Et en plus, dans la façon dont j'ai reçu la chose, je me suis dit, si je lui dis ça... Alors j'ai dit, Seigneur, on va prononcer cette parole. On va la prononcer avec foi. Et je lui dis, ma sœur, avant que je quitte cette église, c'était Cannes-sur-Mer, tu seras fiancée et tu vas te marier. Et alors après coup... Je dis, j'ai prononcé une parole de foi. Sur le moment, j'ai pris conviction et j'ai cru. Et j'ai vraiment, mais avec le recul, je me suis dit, oh là là, Seigneur, pourvu que ça... et ce qui s'est passé, c'est que peu de temps avant mon départ, elle a rencontré quelqu'un, elle s'est fiancée, ils n'avaient pas de temps à perdre. Il y avait une direction de la part de Dieu. Et ils se sont mariés et Dieu m'a permis d'assister à ce mariage. Et je me rappelle de cette conversation qu'on a eue, elle m'a regardé et elle m'a dit, Pierre, cette parole que tu m'as donnée, ça a ravivé ma foi, ça a été juste. Et moi je me disais, tant mieux. Parole de foi, c'est une foi particulière à un moment donné précis. Et je peux vous assurer qu'en fonction des circonstances qu'on rencontre, on aura besoin de paroles de foi. On peut parler des dons de guérison, même si ça semble évident. Je crois que c'est un don auquel beaucoup aspirent, peut-être au milieu de nous. Je prie pour qu'il se manifeste. Et j'ai cette conviction que, c'est ce qui est dit dans les Actes des Apôtres, à partir du moment où la parole était prêchée, elle était accompagnée des signes et des prodiges. Et beaucoup sont le résultat de la conversion. de résultat, enfin le résultat des guérisons aura eu pour conséquence des conversions. Alors aspirons au don de guérison, don d'opérer des miracles, et je vais terminer par celui-là, don d'opérer des miracles, plusieurs définitions, mais une semble revenir sans arrêt, c'est celle que Dieu permet dans certaines circonstances des miracles qui vont contre nature. Des miracles un peu particuliers comme Josué, où à un moment donné, le soleil va s'arrêter dans sa course, don particulier quand Jésus arrête la tempête sur la mer de Galilée. Waouh, je me dis Seigneur, ça peut paraître pratique lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation et que la pluie semble venir. En tout cas, ce sont des dons qui existent. C'est pas simplement, ils sont pas là simplement pour qu'on se dise waouh, ils sont beaux, magnifiques, don de miracle, don de foi, don de guérison. Ils sont là juste pour nous dire que tu peux l'exercer. Don de discernement, don de sagesse, don de connaissance. Ils ne sont pas juste là pour entendre les exemples que j'ai pu partager et se dire « Alléluia, merci Seigneur ». Ça a été donné à l'Église. Et bien souvent, ce que je rencontre au milieu du peuple de Dieu, c'est que par manque de connaissance ou parce que peut-être à un moment donné, on n'en parle pas suffisamment comme on devrait en parler, je suis allé très vite, trop vite peut-être sans doute, mais j'aimerais vous donner envie de dire « Seigneur, sers-toi de moi au travers de ces dons. Sers-toi de moi. » Et en même temps, je vous invite à réaliser que peut-être l'exercice de vos dons ne seront pas forcément textuellement exactement, parce que ma conviction personnelle, c'est bien souvent on vit des dons spirituels alors qu'on ne s'en rend même pas compte. On exprime des dons spirituels alors qu'on ne s'en rend même pas compte, parce qu'ils n'ont pas la forme. Une caractéristique, bien souvent, j'ai vu des personnes avoir des paroles de connaissance au travers de songes. Dieu révèle des situations au travers de songes. Et alors vous allez me dire, mais c'est pas forcément trop le don de connaissance. Si, c'est un don de connaissance. Et au travers des prophéties, nous pouvons aussi exercer des dons de connaissance. Il n'y a pas, je crois que Paul a voulu établir essayer d'établir un ce qui pouvait se faire et ce qui se faisait au travers de l'exercice des dons. Maintenant, la forme qu'ils peuvent prendre, encore une fois, peut varier d'une personne à l'autre. Et vous pouvez exercer, vous avez peut-être pu exercer des dons spirituels sans le savoir, ou vous avez pu expérimenter la vie de l'esprit. J'ai prophétisé, j'ai annoncé quelque chose, j'ai eu un rêve, ou à un moment donné, j'ai prononcé une parole et Dieu était en train de se servir de vous et était en train de passer au travers de vous. Il était en train de communiquer un don spirituel. Vous exercez les dons. Je veux vous encourager ce soir. Ce chapitre d'un Corinthien termine par une chose. Et on a un tout petit peu de temps ce soir. Et je voudrais juste vous encourager par rapport à ce qu'il est dit. Et par quoi l'apôtre va terminer ? Aspirer aux dons les meilleurs. Que ce ne soit pas juste une liste ce soir qui est prononcée, qui est dite et qui est exposée, mais dites Seigneur, je veux être cet instrument. Et pour l'édification, j'aime trop ces dons, parce que les dons comme ils sont décrits et ce à quoi ils servent à édifier, ils servent à encourager. Que les dons spirituels qui s'exercent au milieu de nous dans notre Église soient inspirés, qu'ils consolent, qu'ils édifient, qu'ils encouragent, qu'ils apportent un plus au sein du peuple de Dieu. On verra les prochaines fois l'exercice du don dans notre personne. Je suis désolé si j'ai été un peu exhaustif dans cette présentation, mais j'avais besoin d'exposer ça pour passer à la suite et rentrer un peu plus dans l'exercice. Que le Seigneur se serve de vous, que le Seigneur se serve de nous. Et peut-être ce soir, on pourrait prendre un temps, dire Seigneur, je veux exercer, je veux aspirer les dons les meilleurs. Ma prédication, elle avait un but ce soir, c'est vous donner l'eau à la bouche. Je ne sais pas si c'est le cas, j'espère. Mais qu'il y ait cette aspiration dans votre cœur, comme une prière de dire Seigneur, je veux être ce canal. Et l'idée vraiment qui est associée aux dons spirituels, bien souvent on s'approprie la vie de l'Esprit pour nous en disant « Seigneur, je veux vivre les dons spirituels parce que j'aurai l'impression d'avancer spirituellement. Ce n'est pas la perception que nous avons des dons spirituels. Le don spirituel, c'est dire « Seigneur, je veux être utile à ton Église. Je veux être utile pour le peuple de Dieu. Je veux que tu te serves de moi. » Et Seigneur, si tu peux te servir de moi au travers des dons spirituels, alors Seigneur, fais-le pour l'utilité commune de l'Église. Alors Seigneur, fais de nous ces canaux. Alléluia, vous l'avez bien compris quelques instants. Seigneur Jésus, peut-être au milieu de nous, il y a des aspirations. Ma prière, Saint-Esprit, c'est que tu sois à l'œuvre au milieu de nous et tu te manifestes au travers de cette vie de l'Esprit. Seigneur, nous voulons aspirer aux dons les meilleurs. Nous voulons, c'est vrai, aspirer aux dons de guérison. Nous voulons aspirer aux dons de prophétie. Mais Seigneur, nous voulons aussi aspirer à la connaissance, nos paroles de sagesse. Nous voulons aussi aspirer au discernement. Nous voulons aussi aspirer aux dons de miracle, aux dons de guérison, aux paroles de foi. Seigneur, on veut être ces canaux par lesquels tu vas nous utiliser et par lesquels tu vas te manifester. Alors Saint-Esprit, glorifie-toi au milieu de nous, dans ton Église. Que ton Église dise ce soir, Seigneur, on veut être ces canaux par lesquels le Saint-Esprit va se manifester. Et Seigneur, peut-être si au milieu de nous, il y en a qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu la boxe, Seigneur, que tu viennes donner à chacun, comme il est dit dans ta parole, cette mesure de puissance. Viens remplir au nom de Jésus. Viens remplir ton Église, viens remplir tes enfants, viens remplir tes chrétiens, viens remplir ton peuple de la puissance dont ils ont besoin pour une génération incrédule, pour une génération qui a besoin de voir par moments et qui a besoin de rencontrer un Dieu vivant et vrai. Nous ne n'appartenons pas à une idole, mais nous appartenons à un Dieu qui parle et qui agit, qui édifie l'Église, qui donne des paroles de connaissance, qui révèle des situations pour la conversion d'un grand nombre, pour le salut d'un grand nombre, pour la guérison d'un grand nombre. Nous avons besoin de vivre les choses d'en haut. Nous avons besoin de vivre le surnaturel de Dieu. Au sein de l'Église, alors manifeste-toi, glorifie-toi, Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia.